On veut rendre grâce ensemble. Christ Jésus, merci d'avoir déposé dans nos cœurs la foi, l'espérance, l'amour. Merci parce que ton amour vient au-devant de nous encore ce matin, au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Merci de remplir nos vies de ta parole. Voilà, que je sois, que chacun d'entre nous puisse être comme une éponge, quelqu'un qui absorbe, qui reçoit ta parole. Merci parce que tu es parole de Dieu, parole vivante, parole créatrice dans nos vies. Merci parce que bientôt un jour, là c'est vrai, si nous te verrons tel que tu es, sur ton nom est écrit parole de Dieu. Tu es la parole vivante du Père. Et cette parole vient à nous jour après jour pendant toutes ces années ici-bas, jusqu'au jour où nous te contemplerons dans ta plénitude. Nous pourrons nous réjouir d'avoir lu, d'avoir absorbé tout cet évangile, toute cette bonne nouvelle pendant ce temps sur terre. Merci de ce partage, Jésus. Partage ta parole. Amen. Je vais continuer le même thème qu'il y a déjà un mois et demi. On a attaqué un petit peu tout ce qui est le thème. Voici, je viens bientôt. Je vais reprendre mes deux textes des deux autres prédications d'il y a quelque temps. C'était dans Apocalypse, verset chapitre 22 et le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Et je disais que c'est « Amen ». M'engage, nous engage. Je ne sais pas si vous avez hâte de voir le Seigneur un jour. Oui, je viens bientôt. Alors, les générations se succèdent. Et puis, je disais, on dit, hey, coucou, c'est bientôt. Il est dans le train, au bout de la terre. Il est dans un avion, il doit faire tout le tour du monde avant d'arriver ici. Il est peut-être dans la station spatiale tout en haut et puis il est en train de se préparer. Je sais pas, chacun a sa propre compréhension, sa propre vision, sa propre attente. Amen. Viens Seigneur Jésus. Je disais que ce vient nous engage. On a fait lui un autre texte, juste un petit peu avant, Apocalypse chapitre 21, les sept premiers versets, je vais les relire. « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel, la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de l'eau de la vie, gratuite. » C'est un texte, bien sûr, qui s'applique à ton proche. Mais je vous ai remarqué, ce texte dit aussi « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et rencontrer le Christ Jésus ici-bas, c'est déjà voir quelque chose de nouveau naître. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Quelque chose de nouveau est né dans nos vies, veut se développer. L'éponge qui était sèche peut être remplie de cette eau extraordinaire, un cœur qui est assoiffé, qui est sec, un esprit qui est assoiffé, qui est sec, peut retrouver de la ressource, de la fraîcheur. Un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. On a vu que l'Écriture dit que lire l'Ancien Testament, c'est bien. Le comprendre au travers de la compréhension de qui est Jésus, c'est mieux. Pouvoir avoir une lecture christocentrique, centrée sur Christ quand on lit l'Ancien Testament. Plein de passages peut-être, pas facile à lire, hein. Jean-Marc qui dit toujours, je ne sais pas si vous lisez le Lévitique tous les jours. Jean-Marc parlait des Chroniques tout à l'heure, ça démarre avec tout plein de noms. Alors on va dire ça comme ça, ceux qui sont nommés se reconnaîtront. Ça parle de temps ancien. Mais en même temps, ces noms sont là aussi pour l'éternité. Et dans la succession des générations, je crois que part dans l'Écriture, il dit que notre nom est inscrit au livre de vie. Alléluia. Rencontrer Christ, c'est accepter de sortir de l'anonymat. En Christ, nous avons une nouvelle identité, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes non pas quelque chose, mais quelqu'un. Non pas quelqu'un d'autre, mais nous trouvons le vrai sens de notre vie. Jusqu'à 22 ans, j'ai vécu dans le non-sens, l'absence de raison. Tout ce que les proverbes disent... avec ce grain de folie. Et j'ai souvent, il m'a fallu tellement d'années pour retrouver des appuis, retrouver un équilibre de vie, accepter de laisser cette vie nouvelle redonner des appuis, des fondements, un équilibre, une harmonie. L'Écriture dit, lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Quelque chose de la personne de Dieu, Père, Fils, Esprit, qui tout d'un coup s'ouvre, s'éclaire, des choses qu'il n'y avait pas avant. Quelque chose de nouveau est né. À moi de tout faire au quotidien, au travers d'un culte quotidien, au travers de cette relation quotidienne, avec Jésus, pouvoir... laisser cette nouvelle identité, ces nouveaux appuis de vie, pouvoir laisser cette bonne nouvelle. Depuis des années, on parle aujourd'hui de guérison intérieure, de tout ce qui est laisser la vie de Christ reposer des fondements dans nos vies. On dit souvent qu'il y a 365 promesses dans l'Écriture. Une pour chaque jour. La bonne nouvelle est quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'aime tout ce qui est social-politique, donc c'est vrai que j'aime la géopolitique, je m'intéresse au sort du monde. Et puis en même temps, en ce moment, les nouvelles sont... On est un petit peu débordé avec les médias. Est-ce que chaque jour, il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient de la parole, qui vient de l'Écriture, qui vient de la bouche de Christ ? Jean-Marc nous en parlait tout à l'heure, on l'a lu. Chaque cycle de la vie des hommes de Dieu, de la vie du peuple de Dieu dans l'Écriture, se termine avec une promesse. Soit, voilà, retournez, montez à Jérusalem, faites votre alia. Il y a quelques années, j'ai été 10 jours en Israël avec Jean-Marc Tobois, et quelques semaines ou quelques mois après, j'ai reçu tout un diplôme du gouvernement israélien, comme quoi j'avais fait mon alia, j'avais fait ma montée à Jérusalem. Bon, c'est... si on peut le faire. Mais voilà, c'est... Jean-Marc disait, c'est comment monter et rencontrer le Christ Jésus. Comment avoir cette vision du Christ céleste. Je viens bientôt. Comment pouvoir le rencontrer en esprit, en vérité, chaque jour que Dieu fait, et avoir une vision équilibrée, harmonieuse de qui est Jésus. On parle beaucoup des fake news dans les médias. Il y en a beaucoup, puis je pense que plus on ira, plus il y en aura aussi dans l'Église. Des gens qui ont parfois un petit peu de la peine à comprendre certains textes, qui prennent un texte ou qui en prennent 2, 3, 10. Sur les temps de la fin, il y a pratiquement 200 textes importants dans l'Écriture. Rien que sur le jour du Seigneur, il y en a à peu près 100. Donc si on n'en prend que 2, 3 et puis qu'on les tripote, qu'on les triture, qu'on les revisite, chacun à sa sauce, pouvoir avoir une vision équilibrée de Christ dans toute l'Écriture. Le Christ tout entier dans la Bible, tout entière. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire un grand panneau où on marque tous ces textes. Moi, c'est ce que je suis en train de faire depuis quelques mois, essayer d'avoir une vision globale de Christ dans l'Ancien Testament, puis de tous ces textes sur ce retour proche. Les évangiles, l'apôtre Paul déjà, voilà, disait ce, Jésus est proche, il est à la porte. Puis en même temps, on dit souvent, ça fait 2000 ans. Vivre chaque jour, alors je ne sais pas, comme si c'était le dernier, mais comme si Jésus pouvait venir là rapidement, incessamment. On a beaucoup de textes qui nous parlent en même temps du futur et puis en même temps d'immédiateté, de proche, bientôt. Ça fait combien de temps, bientôt? On ne sait pas. Mais on sait que ce matin, on est dans la présence de Jésus. Et ça, c'est maintenant. La vie nouvelle, c'est maintenant. Je fais toute chose nouvelle. Quelque chose de nouveau est né dans ma vie. Je suis une nouvelle création. Attendre ce messager de l'Alliance, génération après génération. Entre Abraham et Jésus, 42 générations, il y en a eu d'autres avant. Jésus, fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de David, fils de Dieu. Génération après génération. Rester dans la foi, dans ta fidélité, dans le témoignage. Toutes ces figures de l'Ancien Testament, tous ces témoins, nous appellent à être fidèles, à être témoins à notre tour. L'Église, on est en 2020, 1990 ans d'attente, à la louche, quelque chose comme ça. Quand j'avais 20 ans, que j'allais dans les églises ADD, c'est un des points de doctrine, hein, le retour de Jésus. Je viens bientôt, puis Paul dit, mais voilà, beaucoup disent, mais ça ne viendra jamais, les choses ne changent pas tellement. Qu'est-ce qui peut changer dans nos vies? Comment est-ce que la présence de Jésus peut amener quelque chose de nouveau, de recréation? Que le vieux Michel, quarante-six ans de vie avec Dieu, puis j'ai souvent, et à nouveau, tout doit être à nouveau, aujourd'hui encore. Demain, après-demain, en Dieu, la notion de temps, pas la même que nous. Pour lui, la croix, c'était hier. Il nous a dit que Jésus était là quand le ciel et la terre ont été créés. Et c'est par cette parole, la parole était Dieu, cette parole de Dieu, que le monde a été créé. Comment cette parole peut venir encore à ma rencontre aujourd'hui? C'était l'axe de prédication de Jean-Marc la semaine dernière. Comment est-ce que cette parole peut s'incarner? Pas seulement le petit Jésus dans la crèche. 27 janvier 2020, le Jésus qui est à la droite du Père, là maintenant, qui revient dans la gloire, dans sa gloire, aussi pour la mienne, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et là où est l'Esprit, il y a une transformation de gloire en gloire, dans la même image que le Seigneur. Jour après jour, que Dieu puisse refaire le dessin, reprendre le dessin, l'améliorer. Je regardais un documentaire l'autre soir sur le Vatican. Puis je suis en train de lire un livre sur ceux qui ont bâti les cathédrales. Entre le moment où un évêque, un archevêque, un pape commençait la construction d'une... d'une église, d'une cathédrale, parfois il pouvait décéder sans avoir vu la fin. Je crois que le Vatican, c'est 5 siècles. Des hommes, par exemple, Michel-Ange, il a passé sa vie, pratiquement une grande partie de sa vie, pour bâtir, et la fin de la flèche, il ne l'a pas vue, fin de la coupole, il ne l'a pas vue. Construire nos vies en Christ, à l'image de Christ, c'est un travail de longue haleine. 365 promesses de Dieu. Combien vont nous faire vivre ? Plein de promesses de Dieu que j'aime me rappeler, j'en ai pas mal qui se sont accomplis dans ma vie. J'espère qu'il en reste encore. Et déjà, celle-ci ressemblait, je crois que c'était dans les prières ce matin, ressemblait à Jésus. Image par image. Je sais pas si vous avez vu ça, si vous avez vu ça quand vous étiez petit. On avait des petits carnets avec un animal, je crois que c'était un pingouin. Et puis on le feuilletait, puis hop, on voyait le pingouin avancer, image par image. Le cinéma, c'est je ne sais plus combien d'images à la seconde. Le jour où Jésus revient, il va feuilleter notre vie. Et puis à la fin, je dois ressembler à Christ, c'est ça ? Comment est-ce qu'on s'y prend pour ressembler à Christ? Être imbibé de Christ, être transformé par Christ. Peut-être déjà être imbibé, rempli de cette parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est la parole de Christ. J'aimerais prendre un texte avec vous, une de ces promesses que tout le monde connaît. Hein. Ésaïe au chapitre 9, je n'ai pas inventé l'eau chaude là. On va relire les textes des grands classiques. Ésaïe 9, les 6 premiers versets. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Tellement de textes où on a les deux à la fois. Cette première venue de Jésus, un enfant nous est né, un fils nous a donné. La domination reposera sur son épaule. Pour le moment, cette domination, elle est cachée. Elle est au travers de tous ceux qui appartiennent à Christ, qui sont vivants avec Christ, en Christ, pour Christ. Mais souvent, la deuxième partie de ces textes, elle n'est pas arrivée encore. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'incarnation, Noël, la domination reposera sur son épaule. Je viens bientôt. J'ai souvent le retour ne sera pas le même que la première venue. Première venue, Jean-Marc l'a rappelé, c'est la croix. C'est la souffrance, c'est le Fils de Dieu, le serviteur. C'est le Dieu souffrant, le Dieu sans apparence, sans rien pour attirer le regard. On prie pour que l'Église, pour que le nombre de personnes qui connaissent le Christ jusqu'à la dernière petite île dans le Pacifique, jusqu'à ce que la dernière langue, que l'Écriture soit traduite dans toutes les langues, de toutes les nations, toutes les tribus, tous les peuples. Je ne sais pas combien il en reste encore. Quelques années, il en restait encore 2000, 3000. Je ne sais pas si c'est... Voilà, ça fait partie des choses qui doivent être faites avant que Jésus revienne. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce que Dieu est, on retrouve pratiquement un peu plus de 100 expressions qui nous parlent de ce qu'est Dieu, Père, Fils et Esprit. C'est tellement beau de pouvoir se les approprier et de pouvoir les confesser. Pouvoir dire à Jésus, pouvoir dire au Père, à l'Esprit, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'il est. Ça fait partie, on parle beaucoup du langage de l'amour dans la famille, avec les enfants. langage d'amour avec le Dieu vivant et vrai. Je fais toutes choses nouvelles. L'Église, l'époux et l'épouse disent viens. L'épouse dit viens. Il y a quelque chose de féminin aussi en Dieu. Je suis homme. Comment est-ce que je peux être l'épouse de Christ? C'est des images pour dire le face-à-face, le vis-à-vis. Un jour, il y aura quelque chose de nouveau qui sera en face de Christ. L'Église, tout le peuple de Dieu réuni, Ancien Testament, Israël, sera quelque chose de nouveau. Je crois que c'est Paul dans Éphésiens qui dit, il a enlevé le voile, les murs qui séparent, et puis des deux, il n'en a fait qu'un. Cela aussi, c'est tous les mystères, mais au fur et à mesure qu'on avance, les mystères commencent à s'ouvrir, à se dévoiler. Pour pouvoir dire « Viens, Seigneur Jésus », pour moi, ça fait partie des langages d'amour. Pas seulement le dimanche matin. Je dis, voilà, c'est un peu une triste période, puisqu'on ne partage pas le pain et le vin, autant que des jours meilleurs soient là, mais... Voilà, régulièrement dans nos prières, pouvoir fermer les yeux, puis avoir cette prière, enfin cet appel, ce cri, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens continuer de faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Merci Seigneur d'être Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu avec nous, avec l'Église, Dieu avec les hommes. Que beaucoup d'hommes puissent... ouvrir les yeux, comprendre ces choses. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde ou de la fin de l'ère ou de la fin du temps des nations? Quand on dit « Viens bientôt, Seigneur Jésus », quand cela arrivera-t-il? C'est quoi les signes? J'ai un petit peu plus de 68 ans quand j'allais avec moi. Maman, aux églises de Pentecôte, déjà, on parlait du retour de Jésus presque toutes les semaines. Mais c'est quand les générations se succèdent. On est encore là ce matin, 27 décembre 2020. Est-ce qu'on sera là dimanche prochain? Peut-être. Peut-être pas. Ça met d'autres perspectives dans la vie, peut-être une autre manière de voir le temps, de voir les choses de ce monde. Quand cela arrivera-t-il? Quand sera le signe de ton avènement? Énormément de livres sortent en ce moment de toutes les églises chrétiennes pour essayer de comprendre. On dit, hein, quel temps à l'horloge de Dieu? Est-ce qu'il est moins une minute, moins une seconde, moins une heure, moins un jour, moins 10 jours, moins 10 mois, moins 10 ans? Actes, on lit le livre des Actes au chapitre 1, ça tracassait déjà les apôtres il y a 2000 ans. Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, oui, ça les travaille déjà à l'époque. Ils avaient tellement hâte de voir le Christ dans sa gloire, qu'Israël soit rétabli. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Chacun essaie de tirer la couverture à soi. Je crois que c'est un livre qui a été écrit dans les années 50. Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël ? 48. L'État d'Israël s'est reformé. On est 72 ans après. Les 12 apôtres tirent la manche de Jésus et disent, mais c'est quand ? Et c'est quoi le signe ? Le plus grand des signes, c'est peut-être déjà l'écriture. Simplement être fidèle jour après jour et puis se réveiller, être réveillé, être attentif, être dans l'attente, être dans l'espérance. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Que l'amour puisse irriguer la foi et l'espérance jour après jour. Acte 2, les versets 16 à 21. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Depuis 2000 ans, il y a eu beaucoup de jours difficiles. On ne sait pas très bien si tout le livre de Daniel et puis les trois quarts de l'Apocalypse sont déjà réalisés en l'an 70. En l'an 132, Jérusalem a été détruite. 132, il ne restait pas pierre sur pierre. Vous voyez, des textes où Dieu fait quelque chose de nouveau chaque jour, et puis en même temps, tout n'est pas encore accompli, tout n'est pas encore en plénitude. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Un jour, on le verra tel qu'il est. Ça sera différent de Jésus serviteur souffrant, crucifié. On dit le Christ pantocrator, c'est-à-dire le Christ dans sa gloire, avec un vêtement blanc lumineux. Très belle vision au début du livre de l'Apocalypse. Ce qu'est Jésus, là, maintenant, à la droite de Dieu, c'est ce Jésus qui va revenir. Il dit de Jérusalem, d'Israël, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront avec leurs yeux. On lit 2 Corinthiens 6, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le jour du salut, en hébreu, c'est le jour de Jésus. Le jour de Yeshua. C'est tiré d'un texte de Ésaïe, chapitre 49, verset 8. On peut le lire ensemble. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez, et ils paîtront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Au jour de Jésus. Depuis des années, j'ai toujours eu ce petit dessin dans ma Bible, ça existe depuis 60 ans. Quelqu'un a eu l'idée de mettre le nom de Yeshua, de Jésus, sur le chandelier à cette branche. Ça tombe bien, ça tombe pile poil. Yeshua, ça fait les sept flammes du chandelier à sept. Au jour de Yeshua, viens bientôt, Seigneur Jésus. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, pour chacun d'entre nous, le jour pour être en relation avec Jésus. Pour avoir cette parole, cette relation d'amour. Pouvoir avoir toujours ce feu qui brûle dans le cœur, dans l'esprit, dans l'intelligence. Viens, Seigneur Jésus. Maranatha. Au jour de Yeshua, au jour de Jésus. Que Dieu vienne allumer, que Jésus vienne allumer ce chandelier. Beaucoup d'images hein, dans l'Écriture, dans Zacharie, avec ce chandelier qui est alimenté en permanence. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. On a cette vision dans Zacharie, dans l'Apocalypse, avec ce chandelier, que chaque flamme soit allumée, que cette plénitude de Christ soit présente dans ma vie par l'esprit. Je répands mon esprit sur toute chair, c'est un privilège. Privilège que d'être uni au Christ au travers de la parole, au travers de l'esprit. On va prier ensemble. Père Céleste, merci de continuer d'ouvrir nos yeux sur l'espérance qui est dans le Christ Jésus. Merci pour l'incarnation, parce que Jésus a été crucifié parce qu'il a souffert sur la croix, pour mes péchés, pour nos péchés, pour les péchés du monde entier, tous les hommes, toutes les femmes. Seigneur, nous voulons continuer d'ouvrir nos cœurs, nous voulons continuer d'avoir soif de toi. Merci pour la foi, l'amour, l'espérance. Continue de recréer, de régénérer, ressourcer chacune de nos vies. Que chaque jour, quelque chose en nous vienne ressembler, vienne être à l'image de toi. Pour que bientôt, le jour où tu reviens dans la gloire, chacun d'entre nous soit prêt à te rencontrer en face à face, en toute plénitude. Je veux te bénir de cette espérance. L'Écriture dit que celui qui a cette espérance purifie, continue de se purifier. Voilà, Seigneur Jésus, merci pour le sang versé pour le pardon des péchés. Et merci parce que tu revêts chacun d'un homme, d'une femme nouvelle, de quelque chose de nouveau. Et que ce nouveau, tu l'alimentes jour après jour. Ensemble, on veut te bénir et on veut continuer de rester fidèle. Merci pour ta fidélité, chacune de nos vies. Amen.